Léo Tolstoï et les deux vieillards. Deux vieillards avaient fait vœu d'aller à Jérusalem en pèlerinage. L'un était un riche moujik, il s'appelait Efim Tarasit Shivelef. L'autre, Élisée Bodrov, n'était pas riche. Efim était un moujik rangé. Il ne buvait pas de vodka, ne fumait pas de tabac et ne prisait pas. Il ne jurait jamais. C'était un homme grave et rigide. Il avait déjà été deux fois starost. Il avait une nombreuse famille, deux fils et un petit-fils mariés, et tous demeuraient ensemble. C'était un moujik vigoureux, droit, barbu. À 70 ans, sa barbe commençait à peine à blanchir. Élisée était un petit vieillard, ni riche ni pauvre. Il s'occupait jadis de charpenterie, et depuis que l'âge était venu, il restait chez lui et élevait des abeilles. Un de ses fils travaillait au dehors, l'autre à la maison. C'était un bonhomme jovial, il prenait de la vodka, prisait du tabac, aimait à chanter des chansons. Mais il était débonnaire et vivait en bons termes avec les siens et les voisins. C'était un petit moujik, pas plus haut que ça, un peu bistré, avec une barbiche frisée, et comme son patron le prophète Élisée, il avait toute la tête chaude. Voilà bien longtemps que les deux vieillards s'étaient entendus pour partir ensemble. Mais Ephim différait toujours, ses affaires le retenaient. Une terminée, une autre aussitôt s'engageait. Tantôt c'était le petit-fils qu'il fallait marier, tantôt le fils cadet, dont il voulait attendre le retour de l'armée, tantôt une nouvelle isba qu'il était en train de construire. Un jour de fête, les deux vieillards se rencontrèrent. Ils s'assirent sur des poutres. « Eh bien, compère, dit Élisée, à quand l'accomplissement de notre vœu ?» Ephim se sentit embarrassé. « Mais il faut attendre encore un peu. Cette année est justement des plus chargées pour moi. J'ai commencé à construire cette isba. Je comptais y mettre 100 roubles, et voilà déjà que le 300e est entamé. J'ai pas fini. Remettons la chose à l'été. Vers l'été, si Dieu le permet, nous partirons sans faute. À mon avis, répondit Élisée, il convient pas de tarder davantage. Il faut y aller maintenant. C'est le bon moment, voici le printemps. Oui, c'est le moment, oui, c'est le moment, mais une entreprise commencée, comment l'abandonner ? N'as-tu donc personne, ton fils te suppléera. Mais comment fera-t-il ? Je n'ai pas trop de confiance en mon aîné. Je suis sûr qu'il gâtera tout. Nous mourrons, compère, ils devront vivre sans nous. Il faut bien que les fils s'habituent. Oui, c'est vrai, mais je voudrais que tout se fît sous mes yeux. Eh, cher ami, tu ne saurais tout faire en tout et pour tout. Ainsi, hier, mes babas nettoyaient pour la fête. C'était tantôt une chose, tantôt une autre. Je n'aurais jamais pu tout faire. L'aîné de mes brus, une baba intelligente, disait « C'est bien que la fête vienne à jour fixe sans nous attendre. » Car autrement, dit-elle, malgré tous nos efforts, nous n'aurions certainement jamais fini. Ephim resta rêveur. J'ai dépensé, dit-il, beaucoup d'argent à cette construction, et pour aller de l'avant, il faut pas non plus partir avec les mains vides, c'est pas peu que 100 roubles. Élisée se mit à rire. Ne pêche pas, compère, dit-il, mais ton avoir est 10 fois supérieur au mien. Et c'est toi qui t'arrêtes à la question d'argent. Me donne seulement le signal du départ, moi qui n'en ai pas, j'en serai bien trouvé. Ephim sourit aussi. Voyez-vous, ce Richard, dit-il, mais où m'en prendras-tu ? Moi, je fouillerai à la maison, je ramasserai quelque chose, et pour compléter la somme, je vendrai 10 ruches aux voisins qui m'en demandent depuis longtemps. Mais là, ces moches sera bon pourtant. et tu auras des regrets. Des regrets, mon compère, mais je n'ai rien regretté de ma vie, excepté mes péchés. Il n'y a rien de plus précieux que l'âme. C'est vrai, mais c'est pas bien quand il y a du désordre dans la maison. C'est pire encore, mais quand il y a du désordre dans l'âme. Et puisque nous avons promis, eh bien partons. Élisée persuada son ami. Et fit réfléchir, réfléchit. Et le lendemain matin, il vint chez Élisée. Eh bien, soit, partons, dit-il, t'as dit la vérité. Dieu est le maître de notre vie et de notre mort. Puisque nous sommes encore vivants et que nous avons des forces, il faut y aller. Dans la semaine qui suivit, les vieillards firent leurs préparatifs. Éphim avait de l'argent chez lui. Il prit pour lui 190 roubles et en donna 200 à sa vieille. Élisée, lui, vendit à son voisin 10 ruches avec la propriété des essaims à mettre. Il en tira 70 roubles. Les 30 qui manquaient, il se les procura par petites sommes chez tous les siens. Sa vieille lui donna ses derniers écus qu'elle conservait pour l'enterrement. Sa bru lui donna les siens. Enfin, Talasitch a tracé d'avance à son fils aîné tout ce qu'il devra faire. Où il faudra semer, où mettre le fumier, comment finir l'isba et la couvrir. Il a songé à tout, il a tout réglé d'avance. Élisée a dit seulement à sa vieille de mettre à part, pour les donner aux voisins loyalement, les jeunes abeilles des ruches vendues. Quant aux choses de la maison, il n'en a pas parlé. Chaque affaire apporte avec elle sa solution. Vous êtes assez grand, vous saurez faire pour le mieux. Les vieillards étaient prêts. On leur fit des galettes, on leur cousit des chacs, on leur coupa de nouvelles anouchis. Ils mirent des chaussures neuves, prirent avec eux une paire de lapetits de rechange et partirent. Les leurs les reconduisirent jusqu'à la sortie du village, leur firent leurs adieux, et les vieillards se mirent en route. Élisée avait gardé sa bonne humeur à peine hors de son village. Il oublia toutes ses affaires. Il n'a qu'une pensée, être agréable à son compagnon, ne pas aventurer un mot qui le blesse, aller en paix et en bonne union jusqu'au but du voyage et revenir à la maison. Tout en marchant, il murmure quelques prières ou ce qu'il se rappelle de la vie des saints. S'il rencontre un passant sur la route ou quand il arrive quelque part pour la nuit, il tâche toujours d'être aimable avec tout le monde et de dire à chacun un mot qui fasse plaisir. Il marche et se réjouit. Une seule chose n'a pu lui réussir. Il voulait cesser de priser du tabac. Il a même laissé chez lui sa tabatière, mais cela l'ennuyait chemin faisant. Et un homme lui en offre. Alors il lutte, mais tout à coup il s'arrête. Laisse passer son compagnon pour ne pas lui donner l'exemple du péché et prise. Enfin, Talasitch marche d'un pas ferme. Ne fait pas de mal, ne dit pas de paroles inutiles, mais il ne se sent pas le cœur dispos. Les affaires de sa maison ne lui sortent pas de la tête. Il songe sans cesse à ce qui se passe chez lui. N'a-t-il pas oublié de dire quelque chose à son fils ? Fera-t-il son fils ainsi qu'il lui a été ordonné? Il voit sur sa route planter les pommes de terre ou transporter du fumier. Il pense, fait-il comme je lui ai dit, le fils? Il retournerait bien pour lui montrer lui-même. Les vieillards marchèrent pendant 5 semaines. Les lapetits dont ils s'étaient munis s'étaient usés. Ils commençaient à en acheter d'autres. Ils arrivèrent chez les Rochli. Depuis 2 départs, ils payaient pour le vivre le couvert. Une fois chez les Rochli, ce fut à qui les inviteraient le premier. On leur donnait à manger et à coucher sans vouloir accepter de l'argent. On remplissait leurs sacs de pain ou de galettes. Ils firent ainsi 700 verstes. Après avoir traversé une autre province, ils arrivèrent dans un pays infertile. Là, on les couchait encore pour rien, mais on ne leur offrait plus à manger. On ne leur donnait pas même un morceau de pain partout. Parfois, ils en pouvaient trouver pour de l'argent. Mais l'année d'avant, leur disait-on, rien n'avait poussé. Ceux qui étaient riches s'étaient ruinés et avaient tout vendu. Ceux qui avaient assez étaient devenus pauvres, et les pauvres avaient émigré ou mendiaient ou dépérissaient à la maison. Et pendant l'hiver, ils mangeaient du son et des grains de miel. Dans un village où ils passèrent la nuit, les vieillards achetèrent une quinzaine de livres de pain, puis ils partirent le lendemain à l'aube pour marcher assez longtemps avant la chaleur. Ils firent une dizaine de verstes et s'approchèrent d'une petite rivière. Là, ils s'assirent, puisèrent de l'eau dans leurs tasses et y trempèrent leur pain, mangèrent et changèrent de souliers. Ils restèrent ainsi quelques instants à se reposer. Élisée prit sa tabatière de corne. Efim Tarasic hocha la tête. « Mais comment, dit-il, ne te défais-tu pas d'une si lointaine vieille habitude ?» Élisée eut un geste de résignation. « Oh, le péché a eu raison de Branque. Qu'y puis-je faire ?» Ils se levèrent et continuèrent leur route. Ils firent encore une dizaine de verstes et dépassèrent un grand bourg. Il faisait chaud. Élisée se sentit fatigué. Il voulut se reposer et boire un peu. Mais Ephim ne s'arrêta pas. Il était meilleur marcheur que son camarade, qui le suivait avec peine. « Je voudrais boire, » dit Élisée. « Eh bien, filon de bois, moi, je prends soif. » Élisée s'arrêta. « Ne m'attends pas, » dit-il, « je vais courir à cette petite isba. Je boirai un coup et je te rattraperai bientôt. »« C'est bien. » Et Ephim Tarasic s'en alla seul sur la route, tandis qu'Élisée se dirigeait vers la maison. Élisée s'approcha de l'isba. Elle était petite, en argile peinte, le bas en noir, le haut en blanc. L'argile s'effritait par endroits. Il y avait évidemment longtemps qu'on ne l'avait repeinte et le toit était crevé d'un côté. L'entrée de la maison donnait sur la cour. Élisée entra dans la cour. Il vit, étendu le long du remblai, un homme sans barbe, maigre, la chemise dans son pantalon, à la manière des Cholchi. L'homme s'était certainement couché à l'ombre, mais le soleil venait maintenant sur lui. Il était étendu et il ne dormait pas. Élisée l'appela, lui demanda à boire. L'autre ne répondit pas. « Oh, il doit être malade ou très peu affable, » pensa Élisée. Et il se dirigea vers la porte. Il entendit deux voix d'enfants pleurer dans l'isba. Il frappa avec l'anneau. « Hé, chrétien !» On ne bougea pas. « Serviteur de Dieu !» Pas de réponse. Élisée allait se retirer lorsqu'il entendit derrière la porte un gémissement. « Il y a peut-être un malheur là derrière, il faut voir. » Et Élisée revint vers l'isba. Il tourna l'anneau, ouvrit la porte et pénétra dans le vestibule. La porte de la chambre était ouverte. À gauche se trouvait le poêle, en face le coin principal où se trouvait l'étagère des icônes, la table, derrière la table un banc. Sur le banc, une vieille femme vêtue seulement d'une chemise, les cheveux dénoués, la tête appuyée sur la table. Près d'elle, un petit garçon maigre comme en cire, le ventre enflé. Il tirait la vieille par la manche en poussant de grands cris. Il lui demandait quelque chose. Élisée entra dans la chambre. De mauvaises odeurs s'en exhalaient. Derrière le poêle, dans la soupente, il aperçut une femme couchée. Elle était étendue sur le ventre et ne regardait rien et râlait. Des convulsions écartaient et ramenaient ses jambes tour à tour et la secouaient tout entière. Elle sentait mauvais, on voyait qu'elle avait fait sous elle, et personne pour la nettoyer. La vieille leva la tête, elle vit l'homme. « Mais de quoi as-tu besoin? Que veux-tu? Il n'y a rien ici, » dit-elle dans son langage de l'Ukraine. Élisée comprit et s'approchant d'elle. « Je suis entré, » dit une servante de Dieu, « pour demander à boire. » Il n'y a personne pour apporter à boire, il n'y a rien à prendre ici, allez-va-t'en. Mais quoi ? Demanda Élisée. Vous n'avez donc personne qui ne soit pas malade chez vous pour nettoyer cette femme ? Oh, personne, mon homme se meurt dans la cour et nous ici. Le petit garçon s'était tu à la vue d'un étranger. Mais quand la vieille se mit à parler, il la tira de nouveau par la manche. « Du pain, petite grand-mère, donne-moi du pain !» Et il se remit à pleurer. Élisée avait à peine eu le temps d'interroger la vieille lorsque le moudjik vint s'affaisser dans la pièce. Il se traîna le long des murs et voulut s'asseoir sur le banc, mais il ne réussit pas et tomba par terre. Et sans se relever, il essaya de parler. Il articulait ses mots comme arrachés un par un, en reprenant haleine à chaque fois. « La faim nous a envahis, voilà, il meurt de faim !» dit le moujik en montrant d'un signe de tête le petit garçon. Et il pleura. Élisée secoua son sac derrière l'épaule, l'ôta, le posa par terre, puis le leva sur le banc et se hâta de le dénouer. Il le dénoua, prit le pain, un couteau, coupa un morceau et le tendit au moudjik. Le moudjik ne le prit point et montra le petit garçon et la petite fille comme pour dire « Donne-le-leur à eux !» Élisée le donna au garçon. Le petit garçon, en sentant le pain, le saisit de ses menottes et y entra avec son nez. Une petite fille sortit de derrière le poêle et fixa ses yeux sur le pain. Élisée lui en donna aussi. Il coupa encore un morceau et le tendit à la vieille. La vieille le prit et se mit à mâcher. « Il faudrait apporter de l'eau, » dit Élisée, « ils ont tous la bouche sèche. » Je voulais, dit-elle, hier ou aujourd'hui, m'en souviens plus déjà, je voulais apporter de l'eau, mais pour la tirer, je l'ai tirée, mais j'ai pas eu la force de la porter, je l'ai renversée et je suis tombé moi-même. C'est à peine si j'ai pu me traîner jusqu'à la maison, et le seau est resté là-bas, si on l'a pas pris. » Élisée demanda où était le puits et la vieille le lui indiqua. Il sortit, trouva le seau, apporta de l'eau et fit boire tout le monde. Les enfants mangèrent encore du pain avec de l'eau, et la vieille mangea aussi. Mais le moujik ne mangea pas. « Je ne peux pas, » disait-il. Quant à la baba, loin de pouvoir se lever, elle ne revenait pas à elle et ne faisait que s'agiter dans son lit. Élisée se rendit dans le village, chez l'épicier, acheta du gruau, du sel, de la farine, du beurre, et trouva une petite hache. Il coupa du bois et alluma le poêle. La petite fille l'aidait. Il fit une espèce de potage et une cacha, et donna à manger à tout ce monde. Le moujik put manger un peu, ainsi que la vieille. Le petit garçon et la petite fille léchèrent tout le plat, puis s'endormirent dans les bras l'un de l'autre. Le moujik avec la vieille racontèrent leur histoire. « Nous vivions auparavant, dirent-ils, pas très riches non plus. Et voilà que, justement, rien ne poussa. Vers l'automne, nous avions déjà tout mangé. Après avoir mangé tout, nous avons demandé aux voisins, puis aux personnes charitables. D'abord, on nous a donné, puis on nous a refusé. Il y en avait qui auraient bien donné, mais qui ne le pouvaient pas. D'ailleurs, nous commencions à avoir honte de demander toujours. Nous devons à tout le monde, et de l'argent, et de la farine, et du pain. J'ai cherché, dit le bougique, du travail. Pas de travail. Pas de travail que pour manger, et pour une journée de travail, deux perdus à en chercher. Alors la vieille et la petite fille sont allées mendier. L'aumône était mince, personne n'avait de pain. Pourtant, on mangeait tout de même. Nous comptions nous traîner ainsi jusqu'à la moisson prochaine. Mais depuis le printemps, on n'a plus rien donné. Et voilà que la maladie s'en est mêlée. Tout allait de mal en pis, un jour nous mangions et deux, non. Nous nous sommes tous mis à manger de l'herbe, mais soit à cause de l'herbe ou autrement, la maladie a pris la baba, et la baba salita. Et chez moi, dit le bougique, plus de force, et je ne sais comment me tirer de là. Je suis resté seul, dit la vieille. J'ai fait ce que j'ai pu, mais ne mangeant pas, je me suis épuisé. Et la petite fille dépérit et devint peureuse, alors nous l'envoyions chez le voisin et refusait d'y aller. Elle se tenait blottie dans un coin et n'en bougeait pas. Avant-hier, la voisine entra, mais en nous voyant affamés et malades, elle a tourné les talons et détalés. Son mari lui-même est parti, n'ayant pas de quoi donner à manger à ses petits-enfants. Eh bien, c'est dans cet état que nous nous étions couchés, en attendant la mort. Élisée, ayant écouté leur discours, résolut de ne pas rejoindre son compagnon le même jour, et il coucha dans l'isba. Le lendemain matin, il se leva et s'occupa de tout dans la maison, comme s'il en eût été le patron. Il fit avec la vieille la pâte pour le pain et alluma le poêle. Il alla avec la petite fille chez le voisin chercher ce qu'il fallait. Mais quoi qu'il demandât pour le ménage, pour le vêtement, il n'y avait rien, tout était mangé. Alors Élisée, achetant ceci, fabriquant cela, se procura tout ce qui lui manquait. Il demeura ainsi une journée, une autre, puis une troisième. Le petit garçon se rétablit. Il marchait sur le banc et venait avec tendresse se frotter contre Élisée. La petite fille, devenue tout à fait gaie, l'aidait en tout, toujours à courir derrière lui en criant « Petit grand-père, petit grand-père !» La vieille se remit aussi et alla chez sa voisine. Le bougique commençait à longer les murs. Seule la baba gardait encore le lit. Mais le troisième jour, elle aussi revint à elle et demanda à manger. « Eh bien, pensait Élisée, je ne croyais pas rester ici aussi longtemps. Maintenant, il est temps de partir. » Le quatrième jour commençaient les fêtes de Pâques. « Je vais leur acheter de quoi se régaler. Je festoirai avec eux et le soir, je partirai, » pensa Élisée. Il retourna au village, acheter du lait, de la farine bien blanche et de la graisse. Il cuisina, pâtissa avec la vieille. Le matin, il alla à la messe, et à son retour, on fit bombance. Ce jour-là, la baba commença à marcher. Le bougique se rasa, mit une chemise propre que lui avait lavée la vieille, et se rendit dans le village chez un riche propriétaire auquel il avait engagé sa prairie et son champ. Il allait le prier de lui rendre ses terres avant les travaux. Le bougique rentra dans la soirée, bien triste, et se mit à pleurer. Le riche propriétaire avait refusé. Il demandait l'argent d'abord. Élisée se prit à réfléchir de nouveau. Mais comment vont-ils vivre maintenant? Les autres s'en iront fauchés, et eux non. leur prêt est engagé. Quand le seigle sera mûr, les autres s'en iront moissonner, et eux, non. Leurs déciatines sont engagées. Si je pars, ils reviendront ce qu'ils étaient. Élisée résolut de ne pas s'en aller ce soir-là, et remit son départ au lendemain matin. Il alla se coucher dans la cour, il fit sa prière, s'étendit, mais ne put s'endormir. Ben, il me faut partir, il me reste si peu d'argent, si peu de temps. Et pourtant, c'est pitié, ces pauvres gens. Ben, peut-on secourir tout le monde? Je ne voulais que leur apporter de l'eau et leur donner un peu de pain à chacun. Et voilà jusqu'où les choses en sont venues. Il y a déjà le pré et le champ à dégager. Le champ dégagé. Il faudra acheter une vache aux enfants, puis un cheval aux moujiques pour transporter les gerbes. T'es allé un peu trop loin, mon ami Élisée Bodroff. Tu as perdu ta boussole et tu ne peux plus t'orienter. Élisée se leva, retira son cafetan de derrière la tête, ouvrit sa tabatière de corne, prisa et chercha à voir clair dans ses pensées. Mais non, il méditait, méditait sans pouvoir rien trouver. Il lui faut partir, mais laissez ces pauvres gens, quelle pitié! Et il ne savait à quoi se résoudre. Il ramassa de nouveau son cafetan, le mit sous sa tête et se recoucha. Il resta ainsi longtemps. Déjà les coqs avaient chanté lorsqu'il commença à s'endormir. Tout à coup, il se sent comme réveillé. Il se voit déjà habillé avec son sac et son bâton, et il a à franchir la porte d'entrée. Elle est à peine assez entrebâillée pour laisser passer un seul homme. Il marche vers la porte, mais il est accroché d'un côté par son sac, et en voulant se décrocher, il est pris d'un autre côté par son soulier. Le soulier se défait. À peine dégagé, voilà qu'il se sent retenu de nouveau, non par la haie, mais par la petite fille, qui le tient en criant « petit grand-père, du pain !» Il regarde son pied, et c'est le petit garçon qui lui tient l'onoucha. Et de la fenêtre, la vieille, le moujik le regarde. Élisée se réveilla. « Je vais acheter, se dit-il, et le champ et le pré, plus un cheval pour l'homme et une vache pour les enfants. Car autrement, je m'en irai chercher le Christ par-delà les mers, et je le perdrai dans moi-même. Il faut être secourable. » Il s'endormit jusqu'au matin, se leva de bonne heure, se rendit chez le riche moujik et racheta les semailles et le pré. Il racheta aussi la faux, car elle avait été aussi vendue, et la porta au logis. Il envoya le moujik faucher, et lui-même s'en alla chez le cabaretier pour y trouver un cheval avec une charrette à vendre. Il marchanda, acheta, et partit ensuite acheter une vache. Comme il marchait dans la rue, Élisée vit devant lui deux femmes du pays. Les deux babas cheminaient en bavardant entre elles, et Élisée les entendit parler de lui. « D'abord, disait l'une des femmes, on savait quel était cet homme. On le croyait tout simplement un pèlerin. Il entra, dit-on, pour demander à boire, et puis il est resté à vivre là. Il leur a acheté tout, dit-on. Moi-même, je l'ai vu aujourd'hui acheter chez les cabaretiers un cheval avec une charrette. Il en existe donc de tel genre, oui. Faut aller voir. » Élisée entendit cela et comprit qu'on le louait. Alors il n'alla pas acheter la vache. Il revint chez le cabaretier, lui paya le cheval, attela et prit le chemin de l'isba. Arrivé à la porte d'entrée, il s'arrêta et descendit de la charrette. Les habitants de l'isba aperçurent le cheval et s'en étonnèrent. Ils pensaient bien que le cheval avait été acheté pour eux, mais il n'osait pas le dire. Le patron vint ouvrir la porte. « Où t'es-tu procuré cette bête ? » dit-il, mon petit vieillard. « Mais je l'ai achetée, répondit Élisée. C'est une occasion. Fauche-lui un peu d'air pour la nuit. » Le moujik détela le cheval, lui faucha de l'herbe et en remplit la crèche. On se mit au lit. Élisée se coucha dans la cour où il avait dès le soir transporté son sac. Quand tous furent endormis, Élisée se leva, fit son paquet, se chaussa, passa son cafetan et s'en alla à la recherche des fimes. Élisée fit 5 verstes. Le jour commençait à poindre. Il s'arrêta sous un arbre, défit son paquet et compta son argent. Il lui restait 17 roubles et 20 kopecks. Eh bien, pensa-t-il, avec cela, impossible de passer la mer. Et mendier pour mon visage au nom du Christ serait peut-être un péché de plus. Oh, le compère Éphime sera bien allé tout seul. Et sans doute il mettra aussi un cierge pour moi. Et moi, mon vœu sera non avenu jusqu'à ma mort. Le maître est miséricordieux, il m'en relèvera. Élisée se leva, secoua son sac derrière ses épaules et fit volte-face. Seulement, il contourna le village pour n'être pas vu. Et bientôt, il arriva chez lui. Au départ, il lui avait semblé difficile et même pénible de se traîner derrière Éphime. Au retour, Dieu lui donnait de marcher sans fatigue. Il marchait sans y prendre garde, en jouant avec son bâton, et faisait 70 verstes dans une journée. Quand il arriva chez lui, les travaux des champs s'étaient heureusement faits. Les chiens se réjouirent fort de revoir leur vieillard. On commença par lui demander comment et pourquoi il avait perdu son compagnon, pourquoi il était revenu au logis au lieu d'aller jusqu'au bout. « C'est que Dieu ne l'a pas voulu, répondit-il. J'ai dépensé l'argent en route et j'ai laissé mon compagnon me dépasser. Et voilà, n'y suis pas allé. Pardonnez-moi pour la gloire du Christ. » Mais il rendit le reste de l'argent à sa vieille. Élisée s'enquit des affaires de la maison. Elle s'était arrangée pour le mieux. Tout allait bien. Le ménage ne manquait de rien et tout le monde vivait en paix et en bon accord. Les Éphimophes, ayant appris dans la journée le retour d'Élisée, vinrent demander des nouvelles de leur vieillard. Et Élisée leur dit la même chose. « Votre vieillard, dit-il, allait très bien. » Nous nous sommes quittés 3 jours avant la Saint-Pierre. J'ai voulu le rattraper, mais il m'est alors survenu force et vêtements. J'ai plus de quoi poursuivre ma route. Et voilà, je m'en suis retourné. On s'étonna qu'un homme aussi avisé eût fait une telle sottise. Il est parti, il n'a pas atteint le but et il n'a pour rien dépensé son argent. On s'étonnait et aussi on riait. Et Élisée finit par oublier tout cela. Il reprit ses occupations, coupa avec ses fils du bois pour l'hiver, bâtit le blé avec les babas, ouvrit le hangar et soigna ses ruches. Il se mit en mesure de livrer aux voisins les 10 essaims de jeunes abeilles. Sa vieille eût voulu lui cacher le compte des nouvelles abeilles, mais Élisée savait bien lesquelles étaient pleines, lesquelles ne l'étaient pas. Et il donna à son voisin 17 essaims au lieu de 10. Élisée régla toutes ses affaires, envoya ses fils travailler au dehors, et se mit lui-même à tresser des lapties et à tailler des sabots pour la mauvaise saison. Toute cette première journée qu'Élisée passa dans l'isba des gens malades, Éphime attendit son compagnon. Il fit halte tout près du village, attendit, dormit un peu, se réveilla, demeura assis encore un peu et ne vit rien venir. Il se fatigua les yeux à regarder. Le soleil se couchait déjà derrière l'arbre et Élisée ne paraissait pas. Peut-être a-t-il passé, pensait-il, et comme je dormais, il ne m'aura pas remarqué. Mais non, il ne pouvait pas ne pas me voir, on voit loin dans la steppe. Je vais revenir sur mes pas, pensait-il. Mais nous pourrions nous manquer, oh, ce serait pis. Oh, je vais m'en aller en avant, nous nous rencontrerons à la première couchée. Il arriva dans un village et pria le garde champêtre, s'il venait un petit vieillard de telle et telle manière, de l'amener dans l'isba où il était. Mais Élisée ne vint pas à la coucher. Éphime s'en alla plus loin, demandant à chacun s'il n'avait pas vu un petit vieillard tout chauve. Personne ne l'avait vu. Éphime continua seul son chemin. « Bon, nous nous rencontrerons, pensait-il, quelque part, à Odessa ou sur le bateau. » Et il n'y songea plus. En route, il rencontra un pèlerin. Ce pèlerin, en robe de bure avec de longs cheveux, était allé au mont Athos et faisait déjà pour la seconde fois le voyage de Jérusalem. Ils se rencontrèrent dans une auberge, lièrent conversation et firent route ensemble. Ils arrivèrent sans encombre à Odessa. Là, ils attendirent le bateau pendant 3 jours en compagnie d'une multitude de pèlerins. Il en venait de tous les côtés. De nouveau, Éphime s'enquit d'Élisée, mais personne ne l'avait vu. Le pèlerin apprit à Éphime le moyen de faire la traversée sans bourse déliée. Mais Éphime ne l'écouta point. « Moi, dit-il, je préfère payer ma place, c'est pour cela que j'ai pris de l'argent. » Il donna 40 roubles pour l'aller et le retour et s'acheta du pain avec des harengs pour la route. Le bateau chargé, les fidèles embarqués, Éphime monta à bord avec le pèlerin. On leva l'ancre et on partit. La journée fut bonne, mais vers le soir, un grand vent se mit à souffler. La pluie tombait, les vagues balayaient, inondaient le bateau. Les babas pleuraient, les hommes s'affolaient. Quelques passagers couraient çà et là en quête d'un abri. Éphime sentit lui aussi que la peur lui venait. Mais il n'en laissa rien voir et se tint immobile à sa place, auprès des vieillards de Tanbof, toute la nuit et toute la journée du lendemain. Le 3e jour, la mer s'apaisa. Le 5e, on arriva devant Constantinople. Quelques-uns débarquèrent et visitèrent l'église de Sainte-Sophie le Sage, où sont maintenant les Turcs. Enfin, Éphime ne descendit pas à terre. Après une escale de 24 heures, le bateau reprit la mer, toucha à Smyrne la ville, puis à Alexandrie, et atteignit sans accident Jaffa la ville. C'est à Jaffa que tous les pèlerins devaient débarquer. Il n'y a que 70 verstes pour se rendre à pied de là à Jérusalem. Pendant le débarquement, les fidèles eurent un moment de peur. Le navire était haut, on jetait les passagers dans des barques tout en bas, et les barques oscillant risquaient de tomber, non dedans mais à côté. 2 se mouillèrent quelque peu, mais au bout du compte, tous débarquèrent sains et saufs. On se mit en route aussitôt, et le 4e jour, on atteignit Jérusalem. Éphime s'arrêta hors de la ville, à l'auberge russe, fit viser son passeport, dîna, et s'en alla avec les pèlerins visiter les lieux saints. Au Saint-Sépulcre, on ne laissait pas encore entrer. Il se rendit d'abord à la messe, dans le monastère du patriarche, brilla, brûla des cierges, examina le temple de la résurrection où se trouve le Saint-Sépulcre. Tant de bâtiments le masquent, on ne le voit presque pas. La première journée, il ne put visiter que la cellule où Marie l'Égyptienne avait fait son salut. Il brûla des cierges et chanta la messe. Il voulut voir l'office du soir au Saint-Sépulcre, mais il arriva trop tard. Il alla visiter le monastère d'Abraham. Il vit le jardin de Savec où Abraham voulut sacrifier son fils à Dieu. Il vit ensuite l'endroit où le Christ apparut à Marie-Madeleine et l'église de Jacob, le frère du Seigneur. Le pèlerin lui montrait tout et partout lui disait où et combien il fallait donner, où il fallait brûler des cierges. Ils s'en revinrent de nouveau à l'auberge. Au moment de se coucher, le pèlerin se plaignit tout à coup en fouillant ses poches. « On m'a volé, dit-il, mon porte-monnaie avec l'argent. Il y avait 23 roubles, disait-il, 2 billets de 10 roubles chacun et 3 roubles de monnaie. » Il se plaignait, le pèlerin, mais que faire ? Et il se coucha. Une fois au lit, Éphime fut tenté d'une mauvaise pensée. « Oh, on n'a point volé son argent au pèlerin, » pensait-il. « Je crois qu'il n'en avait pas. Il ne donnait nulle part, il me disait bien le donner, mais lui-même ne donnait rien. Il m'a même emprunté une rouble. » Ainsi pensait Éphime. Puis il se fit des reproches. « Allons, pourquoi porter des jugements téméraires sur un homme ? C'est un péché que je ne veux plus commettre. » Mais dès qu'il s'assoupissait, il se rappelait de nouveau que le pèlerin regardait l'argent d'un certain air sournois, et combien il paraissait peu sincère en disant qu'on l'avait volé. Oh, il n'avait pas d'argent sur lui, c'est une invention. Le lendemain, levé de bonne heure, ils se rendirent à l'office du matin dans le grand temple de la Résurrection, au Saint-Sépulcre. Le pèlerin ne lâchait pas Éphime, le suivait partout. Il y avait au temple quantité de pèlerins, et des Russes, et des Grecs, et des Arméniens, et des Turcs, et des Syriens, à ne pouvoir les dénombrer. Éphime parvint avec la foule jusqu'à la Sainte Porte, et passa à travers la garde turque à l'endroit où le Christ fut descendu de la croix, où l'on loignit d'huile, et là brûlaient 9 grands chandeliers. Éphime y déposa son cierge. Puis le pèlerin le mena à droite, en haut par l'escalier, sur le Golgotha, là où fut la croix. Éphime y fit sa prière, puis on lui montra la fissure qui déchira la terre jusqu'à l'enfer. On lui montra ensuite l'endroit où furent cloués à la croix les mains et les pieds du Christ, puis le sépulcre d'Adam, dont les os furent humectés par le sang du Christ. Puis ce fut la pierre où s'assit le Christ quand on mit sur lui la couronne d'épines et le poteau auquel on lia le Christ pour le flageller, et les 2 creux laissés dans le roc par les genoux du Christ. Éphime eut vu d'autres choses encore, mais il se fit une poussée dans la foule. Tous se hâtaient vers la grotte du Saint-Sépulcre. À une messe non orthodoxe, un office orthodoxe allait succéder. Éphime suivit la foule à la grotte. Il voulait se défaire du pèlerin, contre lequel il péchait toujours en pensée, mais l'autre s'attachait à lui et le suivit à l'office de la grotte du Saint-Sépulcre. Il eût voulu se mettre plus près, mais ils étaient venus trop tard. La presse était si forte qu'on ne pouvait ni avancer ni reculer. Éphime resta donc sur la place, regardant devant lui et faisant ses prières. Par moments, il tâtait s'il avait encore son porte-monnaie, et ses pensées se succédaient. Le pèlerin me trompe assurément. Et si pourtant il ne m'avait pas trompé, si on lui avait en effet volé son porte-monnaie, et alors, pourvu que pareille chose ne m'arrive pas aussi. Éphime, ainsi immobile et priant, jette devant lui ses regards vers la chapelle où se trouve le Saint-Sépulcre, devant lequel sont suspendues 36 lampes. Il regarde par-dessus les têtes, et voici que, juste au-dessous des lampes, en avant de la foule, il aperçoit, ô miracle, un petit vieillard en cafetan de bure, dont la tête entièrement chauve luisait comme celle d'Élisée Bonhoff. « Oh, il ressemble à Élisée, pense-t-il, mais ça ne doit pas être lui, il n'a pas pu être ici avant moi. » L'autre bateau est parti 8 jours avant nous. Il est impossible qu'il ait pu me devancer. Quant à notre bateau, il n'y était point. J'ai bien examiné tous les fidèles. Comme il songeait ainsi, le petit vieillard priait et faisait 3 saluts. Le premier devant lui à Dieu, les autres aux fidèles des 2 côtés. Quand le petit vieillard tourna la tête à droite, Éphime le reconnut aussitôt. « Mais c'est bien lui, Bodrov. Voilà bien sa barbe noirâtre, frisée, et ses poils blancs sur les joues, et ses sourcils, et ses yeux, et son nez, et tout son visage enfin. Mais c'est lui, mais c'est bien Élisée Bodrov. » Éphime se réjouit fort d'avoir retrouvé son compagnon et s'étonna qu'il pût arriver avant lui. Et Bodrov, pensa-t-il, mais comment a-t-il pu se glisser en avant des fidèles? Il aura sans doute fait la connaissance de quelqu'un qui l'amenait là. Oh, je le trouverai à la sortie et m'en irai avec lui après avoir planté là mon pèlerin. Peut-être saura-t-il me conduire, moi aussi, à la première place. Et Éphime regardait toujours pour ne point perdre Élisée de vue. L'office terminé, la foule s'ébranla. On se poussait pour aller s'agenouiller. La presse refoula Éphime dans un coin. De nouveau la peur le prit qu'on ne lui volât sa bourse. Il y porta la main et chercha à se frayer un chemin pour gagner un endroit libre. Il se dégagea, il marcha, il chercha partout Élisée et sortit du temple sans avoir pu le joindre. Après l'office, Éphime courut d'auberge en auberge en quête d'Élisée. Nulle part il ne le rencontra. Cette soirée-là, le pèlerin ne vint pas non plus. Il avait disparu sans lui rendre 100 roubles. Éphime resta seul. Le lendemain, il retourna au Saint-Sépulcre avec un vieillard de Tambov venu sur le même bateau. Il voulut se porter en avant, mais il fut refoulé de nouveau et il resta près d'un pilier à prier. Il regarda devant lui comme la veille, et comme la veille, sous les lampes, tout près du Saint-Sépulcre, se tenait Élisée, les mains étendues comme un prêtre à l'autel, et sa tête chauve luisait. « Eh bien, pensa Éphime, cette fois je saurai bien le joindre. » Il se faufila jusqu'au premier rang. Pas d'Élisée. Oh, il avait dû sortir, sans doute. Le 3e jour, il se rendit encore à la messe, et il regarda encore. Et il aperçut, sur la place sainte, Élisée, tout à fait en vue, les mains étendues, les yeux en haut, comme s'il contemplait quelque chose au-dessus de lui, et sa tête chauve luisait. « Eh bien, pensa Éphime, cette fois-ci je ne le manquerai plus. Je me tiendrai à la porte de sortie et le trouverai sûrement. » Il sortit et attendit. Toute la foule s'écoula, à Élisée. Éphime passa de la sorte 6 semaines à Jérusalem, visitant les lieux consacrés, et Bethléem et Béthanie et le Jourdain. Il fit mettre le sceau du Saint-Sépulcre sur une chemise neuve destinée à l'ensevelir. Il prit de l'eau du Jourdain dans un petit flacon et de la terre et des cierges dans un lieu saint. Quand il eut dépensé tout son argent, qu'il ne lui resta plus que l'argent du retour, Éphime se mit en route pour revenir au logis. Il gagna Jaffa la ville, prit le bateau, arriva à Odessa et s'en alla à pied chez lui. Éphime revint par le même chemin. À mesure qu'il se rapprochait de sa maison, ses sourcils le reprenaient. Comment vivait-on chez lui, sans lui? En une année, pensait-il, il passe beaucoup d'eau sous le pont. Une maison, œuvre d'un siècle, un seul moment peut la détruire. Oh, comment mon fils a-t-il mené les affaires? Comment le printemps a-t-il commencé? Comment le bétail a-t-il passé l'hiver? A-t-on terminé heureusement la maison? Éphime atteignit le lieu où l'année dernière il s'était séparé d'Élisée. impossible de reconnaître les habitants du pays. Là où, l'autre an, ils étaient misérables, ils vivaient aujourd'hui à leur aise. Les récoltes avaient été excellentes, et les paysans, oubliant leur misère, s'étaient relevés. Le soir, Ephim arriva au village où Élisée l'avait quitté. Il venait à peine d'y entrer qu'une petite fille en chemise blanche sortit d'une maison et courut vers lui. « petit vieillard, viens chez nous !» Ephim voulut passer outre, mais la fillette revint à la charge, le saisit par la manche et l'entraîna en riant vers l'isba. La baba et le petit garçon parurent sur le seuil et l'invitèrent de la main. « Viens, petit vieillard, viens souper, passer la nuit !» Ephim se rendit à cette invitation. « À propos, pensa-t-il, je m'informerai d'Élisée. Je crois que voilà justement l'isba où il est allé l'an passé demander à boire. » Ephim entra. La baba le débarrassa de son sac, le mena se débarbouiller et le fit asseoir à table. On lui donna du lait, des vareniki, de la kasha. Ephim remercia les gens de l'isba et les loua de leur hospitalité envers les pèlerins. La baba hocha la tête. « Oh, comment ne le ferions-nous pas bon accueil ? » dit-elle. « C'est à un pèlerin que nous devons le vivre encore. Nous buvions, nous avions oublié Dieu, et Dieu nous punit, et nous attendions la mort. Mais oui, au printemps dernier, nous étions tous couchés, là, sans rien manger, malades. Et nous serions morts si Dieu ne nous eût envoyé un petit vieillard comme toi. » Il entra au milieu de la journée pour boire et, voyant notre état, il fut pris de pitié et resta avec nous. Il nous donna à boire, il nous donna à manger, et il nous a remis sur pied et nous a acheté un cheval avec une charrette qu'il nous a laissée. La vieille entra et interrompit le discours de la baba. Était-ce un homme, était-ce un ange de Dieu ? Nous l'ignorons nous-mêmes. Il aimait tout le monde, plaignait tout le monde, et il partit sans le dire à personne. Nous ne savons même pas pour prier Dieu. Je le vois encore. Je suis couché attendant la mort, et tout à coup, je vois entrer un petit vieillard assez insignifiant, tout chauve, qui demande à boire. Croiriez-vous que j'ai pensé, moi, à la pécheresse, mais que veut-il celui-là ? Mais lui, voici ce qu'il a fait. Aussitôt qu'il nous a vus, il a ôté son sac, il l'a posé là, à cet endroit, et l'a dénoué. La petite fille se mêla à la conversation. « Ah non, grand-mère, dit-elle, c'est ici, d'abord, au milieu de la chambre, et puis sur le banc, qu'il a posé son sac. » Et elle discutait. Elle se rappelait toutes ses paroles, tous ses actes, où il s'asseyait, où il dormait, ce qu'il faisait, ce qu'il disait à l'une ou à l'autre. À la tombée de la nuit, survint le moujik à cheval. Il se mit, lui aussi, à parler de la vie d'Élisée chez eux. « Oh, s'il n'était pas venu chez nous, nous mourrions avec nos péchés, nous mourrions dans le désespoir, en maudissant Dieu et le genre humain. » Et c'est lui qui nous a remis sur pied. C'est grâce à lui que nous avons reconnu Dieu et que nous avons eu foi en la bonté des hommes. Oh, que le Christ le sauve ! Nous vivions auparavant comme des bêtes, et là il a fait de nous des hommes. On fit manger, boire, coucher Ephim, et on se coucha aussi. Ephim ne pouvait dormir. La pensée d'Élisée le hantait, telle qu'à Jérusalem il l'avait vue trois fois au premier rang. « Voilà comment il m'aura devancé, pensait-il. Mes efforts ont-ils été bénis, je ne sais, mais les siens, Dieu les a bénis. » Le lendemain, les gens de l'isba laissèrent partir Ephim, après avoir comblé de gâteaux pour la route, et s'en allèrent au travail. Et Ephim poursuivit son chemin. Ephim était absent de chez lui depuis une année lorsqu'il y entra. Il arriva à son logis vers la soirée. Son fils ne s'y trouvait pas, il était au cabaret. Il en revint gris. Éphime l'interrogea. Il eut bien vite vu que son fils n'avait pas fait son devoir. Il avait gaspillé son argent et envoyé au diable toutes les affaires. Le père se répandit en reproches, mais le fils répondit d'un ton grossier. « T'aurais mieux fait, dit-il, de t'occuper toi-même de ta maison et pas t'en aller en emportant encore avec toi tout l'argent. Et voilà qu'à présent tu me réprimandes. » Le vieux se fâcha et battit son fils. Éphime Tarasitch sortit pour aller chez le staroste faire viser son passeport. Il passa devant la maison d'Élisée. La vieille d'Élisée était sur le seuil. Elle le salua. « Bonjour, compère, dit-elle, as-tu fait bon voyage ?» Éphime s'arrêta. « Oh, grâce à Dieu, oui, je suis arrivé à mon but. J'ai perdu ton vieillard, mais j'ai appris qu'il est retourné au logis. » Et la vieille se mit à raconter. Elle aimait à bavarder. « Oh, il est retourné, dit-elle, notre nourricier, il y a longtemps qu'il est retourné. C'était vers l'Assomption. Oh, quelle joie quand Dieu nous l'a ramené. Nous nous ennuyions tant sans lui. » « Oh, son travail n'est pas considérable, il n'est plus dans la force de l'âge. Mais c'est toujours lui la tête de la maison, et nous nous plaisons qu'avec lui. Et son garçon, qu'il était joyeux. Sans lui, dit-il, la maison est comme un œil sans lumière. Nous nous ennuyons quand il n'est pas là. Que nous l'aimons et que nous le choyons. Eh bien, est-il maintenant au logis ?» « Oh oui, compère, il est aux ruches à soigner ses abeilles. Le miel, dit-on, abonde. Dieu a donné tant de force aux abeilles que mon vieillard ne se rappelle pas en avoir vu autant. La bonté de Dieu ne se mesure pas à nos péchés. Viens, ami, il en sera bien aise. » Éphime traversa le corridor et la cour et s'en fut trouvé Élisée au rucher. Il y entra et vit Élisée qui, vêtu d'un caftan gris, se donnait sous un petit bouleau, sans filet, sans gants, les mains étendues, les yeux en haut, sa tête chauve et luisante, telle qu'il lui était apparue à Jérusalem auprès du Saint-Sépulcre. Au-dessus de lui, à travers le petit bouleau, le soleil se jouait, comme à Jérusalem, la clarté des lampes, et autour de sa tête, les abeilles dorées, volant sans le piquer, lui faisaient une couronne. Éphime s'arrêta. La vieille d'Élisée appela son mari. « Notre compère, dit-elle, est là !» Élisée se retourna, poussa un cri de joie et alla au-devant de son compère, en retirant avec précaution les abeilles de sa barbe. « Oh, bonjour, compère, bonjour, cher ami !» « As-tu fait bon voyage ?»« Oh, j'ai usé toutes mes jambes, mais je t'ai apporté de l'eau du Jourdain le fleuve. Viens chez moi la prendre. Mais je ne sais si Dieu a béni mes efforts. Eh bien, que Dieu soit loué, que le Christ te sauve. »« J'y ai été de mes jambes, dit Éphime après un moment de silence, mais... je ne sais si j'y étais de mon âme, peut-être est-ce plutôt quelqu'un d'autre. Oh, c'est l'affaire de Dieu, compère, c'est l'affaire de Dieu. J'ai visité aussi, en revenant, l'isba où tu es entré. » Élisée, effrayée, lui coupa la parole. Oh, c'est l'affaire de Dieu, compère, c'est l'affaire de Dieu. Viens-tu chez nous boire un peu de miel ? Élisée, désireux de détourner la conversation, parla des affaires du ménage. Éphime poussa un soupir. Il s'abstint de rappeler à Élisée les gens de l'isba et ce qu'il avait vu à Jérusalem. Et il comprit que Dieu ne nous donne ici-bas qu'une seule mission, l'amour et les bonnes œuvres.